grandes voix et des grands moments de France Culture. Le numéro 2 est disponible en kiosque et en librairie, ainsi que sur abonnement. France Culture Papier, une coédition France Culture.
Radio France réunit les plus fameux standards de la comédie musicale. Un week-end autour de Judy Garland, George Gershwin, Steven Sondheim, Cole Porter et Leslie Caron. Les 9 et 10 juin au 104, venez entendre les mélodies du bonheur pour le dernier week-end de concert Radio France. Renseignements 01 56 40 15 16 et concert.radiofrance.fr.
France Inter, la différence.
Il s'appelle Daniel Mermet, il est dans le studio et c'est pour là-bas si j'y suis. Mais attention, il répondeur avant.
Bonsoir Daniel, c'est Marie du Pays de Gex dans le 01. Je tenais tout d'abord à vous remercier pour toutes ces émissions consacrées au printemps érable du Québec. Merci, mille fois merci, car je trouve que l'on n'en parle pas assez dans les médias en France. Or, ce mouvement est exemplaire. Je suis moi-même française et canadienne et j'ai un fils étudiant à Montréal. Je suis profondément bouleversée par la détermination de tous ces étudiants qui manifestent sans relâche depuis le 13 février. Je suis également très impressionnée par la qualité intellectuelle et la grande maturité politique de leurs discours. Tous savent parfaitement pourquoi ils sont dans la rue. Pour eux, c'est une question de survie et du droit à l'éducation est vital, ce qu'ils ont parfaitement compris. L'enjeu est de taille. Il s'agit bien du choix d'une autre société et nous avons beaucoup à apprendre de leur mouvement. Chapeau bas à tous ces étudiants du Québec qui nous montrent la voie. C'était Marie du Pays de Gex.
Salut Mermet, c'est Pierre d'Annecy. Bah, une fois de plus, hein, tu te crois encore au grand soir, à la révolution québécoise des petits bourgeois québécois. Hein, qui ont tous une cuillère en or dans la bouche et qui veulent faire leur révolution, voire leur mai 68. Donc si c'est comme les indignés de la place, c'était à Barcelone ou à Madrid, je ne sais plus, tes indignés espagnols, hein, donc là c'est bien, ta révolution est en cours, hein, la révolution du petit bourgeois qui aimerait bien avoir la place de ceux qui sont à l'heure actuelle à la tête des grandes entreprises. Donc voilà, moi j'ai des potes qui sont actuellement au Canada, au Québec, et qui sont contre. Toutes ces manifs. Donc tu vas t'essayer de faire croire que tout le monde est derrière eux, mais ce n'est pas forcément le cas. Donc des informations quand tu nous tiens, parce qu'à t'écouter, dis donc, c'est la révolution, ils vont tout brûler. Non, t'inquiète pas, ils ne vont pas tout brûler, ils sont bien élevés les Québécois, ils vont rentrer dans le rang comme tout le monde et fermer leur gueule. Donc voilà, allez, j'espère que tu n'y crois plus quand même à toutes tes conneries, mais bon, on te laisse faire. Allez, au revoir.
Nous sommes arrivés à ce qui commence. Une belle formule pour qualifier ce printemps érable que là-bas si j'y suis nous fait partager depuis une semaine. Un vrai bain de jouvence dans lequel on plonge avec ravissement, même si peut-être il faut mettre un bémol, comme l'émission d'aujourd'hui l'a suggéré. AMG de Limoges et des environs, venez en débattre au dernier repère avant la trêve estivale, mercredi 6 juin à 18h30 au bar Les Folies, place des Jacobins. Lorsqu'une utopie pointe son nez, c'est le moment d'y réfléchir sérieusement.
Bonjour à tous, à toutes, tous les AMG, c'est Bernard d'Hénin-Beaumont. Donc si vous pouvez vous rappeler l'inauguration du Café Repère d'Hénin-Beaumont le 7 juin au Café La Belle Anglaise, place Wagon à Hénin-Beaumont. Allez, venez tous, vous serez bien accueillis, vite tous les bienvenus. Au revoir.
Et voilà le premier Café Repère à Hénin-Beaumont. Merci pour ces messages. Vous avez sans doute remarqué celui de cet auditeur, du meux, celui du petit bourgeois qui font la révolution. Ils rentreront dans le rang. C'est possible, mais enfin, ils y rentreront, non sans avoir essayé d'en sortir. Ce que tout le monde ne peut pas dire dans son existence. Donc vous avez compris, on reste encore aujourd'hui à Montréal, au Québec, avec ce printemps érable qui continue bel et bien, et avec plus précisément les pelleteux de nuages. Les pelleteux de nuages, ben, c'est ceux qui servent à rien justement, qui doivent être la cible de cet auditeur. Les pelleteux de nuages, c'est les rêveurs, les utopistes, c'est les indignés qui sont accusés par le gouvernement du Québec de refuser l'évidence, c'est-à-dire la nécessité d'augmenter les frais de scolarité. C'est de cela que toute cette histoire est partie. Mais les pelleteux de nuages avec leur carré rouge au revers et leur concert de casseroles, c'est pas seulement au revers d'ailleurs, les carrés rouges, c'est un petit peu partout à travers la ville, c'est au balcon, c'est sur la voiture, c'est un peu partout qu'on les voit apparaître et fleurir, ces carrés rouges. Il y en a eu un qui faisait 6 mètres sur 6. C'est un grand cube rouge au milieu d'une manif. On va voir aujourd'hui, on va rencontrer les auteurs de cet immense cube rouge. Eh bien, ces pelleteux de nuages avec leurs carrés rouges et leurs concerts de casseroles luttent tout simplement contre la domination de la marchandise, contre la dictature du profit fou, comme le font ailleurs dans le monde d'autres pelleteux de nuages. Et je pense à la Grèce, et je pense à l'Espagne, et je pense à bien des endroits dans le monde, de Santiago du Chili à New York, avec les Occupy, par exemple, à tous ces pelleteux de nuages qui se radicalisent un peu partout. Voilà, c'est dans cette ville de Montréal que nous passons cette heure. On aurait pu se balader d'ailleurs plus largement à travers le Québec, parce que la mobilisation concerne d'autres, pas seulement Montréal, mais elle est concentrée quand même sur cette ville. Alors où en sommes-nous? Où allons-nous? Effectivement, il y a la perspective du Grand Prix automobile. Que va-t-il se passer? Y aura-t-il des perturbations? Et ça, le mot perturbation au Québec, et notamment à Montréal, c'est quasiment synonyme de terrorisme. Voilà les quelques pistes, quelques sujets, quelques thèmes pour aujourd'hui. Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale au 01 56 40 37 37.
Salut, c'est Thibaut de Chambéry. Je ne sais pas si vous avez entendu parler du TGV Lyon-Turin, un projet de nouvelle liaison de ferroviaire entre Lyon et Turin, qui s'appelle en Italie le TAV, et contre lequel les Italiens luttent depuis 10 ans de manière très farouche et très déterminée. Le Lyon-Turin en France, c'est 15 ans de chantier, c'est 70 millions de mètres cubes de déblais, notamment contenant de l'amiante, entreposé en Maurienne, c'est 24 milliards d'euros, tout ça pour soi-disant mettre les camions sur les wagons et aussi faire gagner quelques minutes aux hommes d'affaires entre Lyon et Turin. Beaucoup de gens en France commencent à comprendre que le ferroutage n'est qu'un alibi, le consensus autour du projet se fissure et on vous invite à Chambéry le samedi 9 juin à un rassemblement convivial et informatif au parc du Vernet à Chambéry le 9 juin, suivi d'une manifestation à 14h pour dire notre opposition à ce projet qui est méga coûteux, hyper nuisible et surtout complètement inutile. Venez nombreux et nombreux, on vous attend. Salut.
Devant la porte, épouse-moi, dit un paillasson à une semelle. Tu peux te brosser, répondit-elle. Salut.
La grève est étudiante, la lutte est populaire.
Le bruit de nos casseroles sont les cris d'un peuple en colère.
Maman, ben, je pense qu'il y a une grosse grève étudiante, mais c'est plus juste une grève étudiante, selon moi, c'est un soulèvement social. Littéralement. Moi, je trouve ça émouvant à voir. Là.
Moi, je trouve que c'est comme un espèce de grand réveil général.
Moi, je pense qu'ils ont tort. Quand tu vas au restaurant, toi, mon ami français, quand l'addition arrive, si tu payes pas, il va te dire quoi? Mais c'est exactement la même chose.
Non, alors, c'est pas pareil. Mais les études, c'est pas, que c'est pas comme un beefsteak.
Écoute. Oui. Le Québec te parle. Écoute. Écoute. Écoute un peu.
J'ai l'impression, d'ailleurs, que c'est un mouvement qui se transporte partout dans le monde en ce moment. On s'en calisse! Ce qui est émouvant, en fait, c'est qu'on se laisse pas faire. C'est le mouvement le plus mobilisé de tous les mouvements étudiants qu'il y a eu au Québec. Puis, je sens que ça l'a politisé une génération au complet.
Ça ne pourra pas toujours ne pas arriver. Nous entrerons là où nous sommes déjà. Ça ne pourra pas, car il n'est pas question de laisser tomber notre espérance.
Salut, c'est Daniel Mermès et là-bas, si j'y suis, avec Guy Ventil, le printemps érable et les pelleteux de nuages.
Flight number 2, arriving from New York.
Ça, c'est quand même sympa, hein? C'est une petite maison, là, dans la verdure, un peu envahissante, dans les quartiers du plateau. Et puis, sur une vitre, il y a juste un carré rouge de papier collé à l'intérieur, avec un petit texte qui s'adresse aux passants. Curieux, hein, parce que c'est pas écrit très gros. « Désolé de vous dérangé, on essaye juste de changer le monde. » Voilà, aussi, c'est très beau, regarde le jardin là, les pivoines blanches. Et on se dit que, voilà, c'est un, C'est un vent libertaire, là, qui... Un vent... J'allais dire un vent printanier, mais vent printanier, c'est une expression qui a été utilisée, vous savez peut-être, hein. C'était le nom de code de la rafle du Veldiv. Faire très attention à cette expression, vent printanier. Mais c'est un... En tous les cas, c'est une brise libertaire. Alors, c'est une brise, c'est... Ça peut être une tempête aussi, hein. Libertaire qui traverse ce pays.
Speak white. Speak white, please.
Il n'y a pas si longtemps, une quarantaine d'années encore, on pouvait entendre ce mot-là lorsqu'on était québécois et qu'on entrait dans un grand magasin de Montréal, du centre-ville, un de ces grands magasins qui appartenaient à des descendants de riches colons anglais ou écossais, et que l'on parlait français, on pouvait s'entendre dire « Speak white, please ». Parlez blanc, s'il vous plaît. Ne parlez pas français. Et les Français n'étaient pas blancs. Eh bien non, les Français ont été appelés les nègres d'Amérique. On oublie ça dans notre mémoire collective. Les Français de là-bas étaient appelés les nègres d'Amérique. Après qu'ils aient conquis, comme on dit, c'est-à-dire colonisé les rivages du Saint-Laurent. Mais ils ont été ensuite dominés, et comment ? Par les Anglais et ces Écossais riches, beaucoup venant des États-Unis après l'indépendance, les guerres d'indépendance américaines. Il faut savoir ça quand on met les pieds au Québec, quand on arrive à Montréal et qu'on entend cette langue qui nous fait sourire, cet accent qui nous fait sourire. Ce que je dis là, les Québécois s'en souviennent. Et d'ailleurs, le nom de leur belle province, c'est « Je me souviens ». Eh bien, c'est de ça qu'ils se souviennent, nos cousins québécois. C'est de ça dont ils se souviennent. C'est ça qu'il y a dans les chansons de Félix Leclerc, de Gilles Vigneault, et qu'il y a eu dans la Révolution tranquille, des années 60. Et cette révolution tranquille des années 60, qui était un mélange étonnant et détonnant de souverainisme et aussi de revendication pour un certain État-providence. C'est ça l'identité, c'est un grand morceau de l'identité québécoise et quelque chose en est resté. Je me souviens aussi de cela. Et puis le libéralisme, le néolibéralisme a fait son boulot là comme ailleurs, mais c'était endormi sous le sommet. Vous pouvez dormir et rêver à la fois, je ne sais pas si vous avez remarqué, et ne pas oublier, ce n'est pas parce que vous dormez que vous êtes complètement mort. On se souvient aussi quand on dort, on rêve aussi quand on dort. On dit « le peuple québécois s'est réveillé ». Eh bien, dans le réveil, il y a de ça. Il y a cette mémoire et cette identité blessée, à travers tout simplement cette déclaration d'augmenter de 75% les frais d'inscription, ça semblait pas si monstrueux que ça, au point de déclencher une telle mobilisation. Oui, mais 75% d'augmentation, alors que les frais d'inscription étaient les plus bas du Canada, et à cause de ça, à cause de cette histoire-là, on voit bien qu'il y a quelque chose qui a blessé profondément l'identité québécoise. Et puis, il y a eu ensuite cette loi, on en a parlé, cette fameuse loi 78, la loi Matraque, qui est une atteinte à la liberté d'expression et qui, bien sûr, n'a pas manqué aussi de froisser. Alors là, encore plus largement, froisser, c'est beaucoup dire. C'est peu dire, pardon. C'est indigné et en colère que sont ces Québécois dans les rues, chaque soir, casserole en main et carré rouge au revers. Ça continue, une ténacité, ils ne lâchent rien. Combien de temps tiendront-ils encore ? Où va la négociation ? Les négociations sont dans l'impasse, mais où va la lutte ? Où va le rapport de force avec le bras de fer, avec le gouvernement ? Il faut beaucoup de souffle, ils ont eu beaucoup de souffle pour tenir jusque-là. Tiendront-ils ? Toujours est-il qu'il y a déjà de l'irréversible dans cette lutte. Le Québec ne sera plus jamais comme il était auparavant, même s'il y avait ce auparavant que je viens d'évoquer, et s'il y avait déjà autrefois, et aujourd'hui, et demain sans doute dans ce pays, des pelleteux de nuages, c'est jusqu'à 16 heures, c'est là-bas si j'y suis, le printemps érable.
Barbier des sportifs.
Bonjour, messieurs, dames.
Je veux me présenter. Tu lui dis-tu que tu te fais pas couper les cheveux ici? Tu lui dis-tu?
Tu trouves que j'ai pas une belle tête?
Hein?
On a fait ça là, avec les frères Valais. Hein?
Ah, ça c'est quand même un beau salon de coiffure, mais c'est plus barbier que... C'est les deux, hein, c'est barbier et coiffure.
Non, c'est barbier.
Ah bon?
C'est barbier.
Ben là, la dame, elle n'est pas en train de lui couper la barbe, là, au gars.
Non, mais je suis d'accord, mais on fait les cheveux comme un salon de barbier. C'est pas... C'est en voie de disparition, les salons de barbier.
Oui,
moi, je suis fier de dire que je suis barbier. Moi, c'est pas un salon de coiffure, il n'y a pas d'appointement. C'est ici à la bonne franquette, c'est taverne. Et moi, j'aime crier.
Comment on vous appelle?
Ménic. Mon vrai nom, c'est Dominique. Mais c'est un diminutif qui est Ménique.
Et là, vous êtes là depuis combien de temps?
53 ans.
Ah oui, quand même! Nous, on fait une enquête sur ce qui agite votre ville et votre pays. Et qu'est-ce que vous en pensez? Vous avez un point de vue, vous, là-dessus? Ménique?
Vous, comme ça va pas bien, ça vous intéresse?
Ben, bien sûr!
C'est ça le boulot, hein? S'il se passe rien, nous, on n'a pas de boulot, hein?
Non, je vais te dire, moi, j'étais un petit peu déçu parce qu'à Montréal, là, c'était pas une ville où on avait l'occasion d'avoir ces affaires-là. On n'avait jamais ça. Pour nous autres, c'est comme du nouveau, là. C'est du jamais vu. C'est pas parce qu'on n'a rien eu dans le passé, mais là, ça dépasse un petit peu les bornes, là, tu sais.
C'est de la mauvaise publicité pour Montréal.
C'est ça, ça va. Ça nous fait mal, puis j'aime pas ça. C'est pas bien, là, tu sais, je veux dire.
La mauvaise publicité, comment ça? Par rapport aux touristes?
Ben oui, c'est sûr, les gens, c'est sûr que ça va. C'est sûr que ça va faire peur à certaines personnes. Mais j'espère que ça va se régler le plus vite possible.
Mais vous trouvez qu'ils ont raison, ces étudiants, là, de refuser l'augmentation?
Moi, je pense qu'ils ont tort. Parce que dans la vie, il faut apprendre à payer ses choses et non pas toujours avoir des affaires gratuites.
Oui, mais d'accord, ça c'est vrai. Mais les études, c'est pas pareil. La connaissance, c'est pas pareil quand même.
Ben les études.
C'est pas une marchandise, c'est pas un truc qu'on achète pour revendre.
Oui, je suis d'accord, mais dans la vie, c'est pas tout gratuit. Ouais. À un moment donné, il faut que tu payes quelque chose.
Oui.
Puis peut-être les jeunes vont payer la note.
Bon, mais et cette loi 78, là, qui interdit le rassemblement, qui interdit tout ça, ça te convient, ça? C'est normal?
Non, mais par contre, la loi 78, c'est pas contre les manifestations. C'est pour protéger quand même les gens. Il faut quand même...
Pas beaucoup, ils sont quand même gentils. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Tu te rends compte, depuis le mois de février, t'as des manifs? Qu'est-ce qu'il y a eu? Deux, trois petites vitrines de cassées?
Mon ami, t'es pas en France. En France, vous savez pas quoi faire. Nous, ici, là, on a appris de vous, mais on a gardé les bonnes habitudes. Les pas bonnes, on vous les laisse. Vous avez assez de problèmes comme ça. Ici, ce qui arrive, c'est que nous, en 70, on a fait la révolution tranquille. Et ensuite, tout le monde s'est endormi. Et aujourd'hui, on se réveille. Le prétexte était le coût des études. Et tout le monde sait que utilisateur-payeur, c'est noir. Quand tu vas au restaurant, toi, mon ami français, quand l'addition arrive, qu'est-ce que tu dis au gars? Si tu payes pas, il va te dire quoi? Mais c'est exactement la même chose.
Non, alors, c'est pas pareil. Mais les études, c'est pas comme un beefsteak.
Écoute.
Oui.
Le Québec te parle. Écoute. Écoute. Vous savez tout en Europe. Mais Christ, ça va mal en Europe. Fait qu'écoute un peu. Ici, on est un des peuples les plus harmonieux au monde. Tu le sais très bien. Moi, en 68, j'étais en France. Je me suis fait matraquer, je suis sorti dans le restaurant, j'étais content. Boum, ça a été. Ils m'ont pas demandé qui j'étais. Quand ils ont su que j'étais un Québécois, ils ont dit, on s'excuse. On frappe jamais les touristes. Tabarnak, comme on dit. Mais c'est pas le temps de faire ça, mais j'étais là. Alors ici, on frappe personne, on casse rien. Sauf qu'il y a un mouvement. Et c'est là que je dis, on s'est réveillé tranquillement. Ça fait 100 jours que vous faites chier le monde. Vous devriez vous griller le cul, puis être positif, puis faire du... être proactif, puis créer de la synergie. C'est pas ça que vous faites.
Mais tu penses pas... On manque de synergie et de proactivité.
Ici, là, c'est une des plus belles sociétés qu'on a au monde. Et là, je sais pas comment ça va se terminer. Si t'es ici, ça va faire comme en France.
Ça va faire comme en France, c'est ça?
Non, on fera pas comme en France, parce qu'on sait comment ça marche en France. Fait qu'on veut pas ça. Parce qu'en France, c'est le bordel. Ici, on essaie de... au-dessus de ça.
Oui.
Tu comprends-tu,
oui,
là?
Je pense qu'il y a des actes totalement déplacés qui se sont passés au Québec ces dernières semaines.
Éric Duhaime.
Et qui est derrière les mouvements qui prennent la population en otage.
Télé-Québec.
Et quand vous voulez gagner une bataille auprès de l'opinion publique...
28 mars 2012.
Comme c'est le cas des étudiants présentement, la dernière chose à faire, c'est d'indisposer la population. Je m'excuse, mais quand tu veux draguer quelqu'un, tu y craches pas d'en face. Et tu peux, si les étudiants veulent avoir l'appui de la population, c'est pas en les bloquant sur des ponts, c'est pas en empêchant du monde qui vend des bouteilles de vin... qui n'ont rien à voir avec ce conflit-là de travailler, qu'on va faire avancer la cause. C'est pas en se masquant dans des manifestations. Au contraire, ça la fait reculer.
Voilà ce que vous entendez dans les médias au Québec actuellement. Tout le paysage médiatique est dominé par les puissances d'argent et dénonce du matin au soir et du soir au matin avec un mépris assez formidable. La mobilisation en cours et on y va joyeusement. Alors, on va, j'espère faire plaisir à l'auditeur qui était parmi les messages du répondeur. Ça, c'est effectivement, c'est ce qu'on entend le plus dans les médias quant à l'opinion pour, contre, ça bascule sans qu'on puisse vraiment, alors là, pour le coup, faire la moindre confiance au sondage tant il semble tout à fait trafiqué et manipulé. Mais retournons vers l'effervescence, autour de l'Université LUCAM dans ce quartier de Montréal, le quartier latin, les étudiants se retrouvent, la jeunesse se retrouve avec les profs, tout ça, on se prend le chou. Encore une fois, il faut bien insister, ça ne concerne pas que les étudiants. Au début, bien évidemment, c'était beaucoup les jeunes et les étudiants qui étaient concernés, mais peu à peu, cette contestation s'est étendue à d'autres catégories de la population, y compris d'autres quartiers, des quartiers plus de classe moyenne, voire même parfois jusque dans les beaux quartiers. Surprise, on l'a dit et redit, tant le consensus est... voilà le trait caractéristique de cette société. Il faut le dire et le redire, même si on dit ah oui, mais le feu couvait sous la cendre. Il y a des précédents. On essaye de les mettre en lumière. C'est ce que on passe son temps du matin au soir à essayer de faire ressortir. Et puis évidemment à s'interroger sur le devenir de ce mouvement et même sur son présent. Qu'est-ce que c'est au juste? Qu'est-ce qui se passe au juste? Alors voilà des éléments de réponse avec Éric Pinault, qui est un chercheur, qui est un sociologue, qui enseigne à l'Université du Québec-Montréal et qui est l'auteur d'un papier que vous pouvez trouver assez facilement sur le net, « Le printemps de force ». On avait trouvé ce papier particulièrement judicieux et on a eu envie de rencontrer Éric Pinault.
Comment le reste du Canada vous voit?
Les Québécois voient leur État comme un instrument d'épanouissement et d'émancipation collective. Au Canada anglais, il y a toujours cette idée que ben, je suis pas bien en Ontario, j'irai en Alberta. Je suis pas bien en Alberta, j'irai en Floride. Je suis pas bien en Floride, j'irai au Massachusetts. Je suis pas bien au Massachusetts, j'irai au Texas. L'Amérique du Nord est mon espace. C'est sûr qu'on est rattaché à l'identité canadienne, mais en même temps, bon, on se débrouille en Amérique du Nord. Il y a une unité culturelle de l'Amérique du Nord qui est quand même indéniable. Et le Québec fait état à part. On a une tradition de fierté depuis la Révolution tranquille dans ce que, en tant que collectif, on peut faire. Et en ce moment... on a un gouvernement qui, depuis 10 ans, nous dit « Non, mais arrêtez, oubliez, c'est plus, ça se peut plus. » Et on laisse le privé faire. Et quand on regarde le privé aller, les gaz de schiste, les mines dans le nord, on dit non, mais ça marche pas, là. Le public pourrait faire mieux, et on le sait. Et donc, on a un rapport à l'État radicalement différent. Et il y a des institutions, non pas seulement des institutions de providence, mais des institutions de contestation publique, des institutions de participation. Et donc, il y a une mobilisation. Alors, elle peine à traverser l'Outaouais, elle peine. Il y a une frange de la gauche nord-américaine qui nous regarde et qui sont un peu jaloux, qui sont contents, qui essayent d'être solidaires.
Ah oui?
Oui. Alors, c'est clair. Le mouvement Occupy aux États-Unis utilise les images des manifestations au Québec pour dire voici ce qui se passe.
C'est allé exporter le carré rouge aux États-Unis.
C'est déjà fait, ça.
Ah oui?
Il est à New York. Il y avait, la fin de semaine passée, une manif de carré rouge en Oregon. Il y en a un peu partout en Amérique du Nord. Là, ça, c'est parti, là. Faut voir. Les casseroles aussi, ça commence. Donc, ouais. Occupy... États-Unis a lancé un appel aux casseroles, donc ça commence. Du point de vue sociologique, Occupy et les casseroles, c'est la même chose. C'est un mouvement qui naît d'une résistance ou d'une dénonciation de l'austérité, d'une dénonciation des inégalités et de la corruption et de la collusion dans le gouvernement.
Ce mouvement, c'est un renouvellement, une renaissance, une prise de conscience, mais aussi toute une culture politique, parce que sur 6 mois... Ça aura duré 6 mois, au moins.
Ouais. Ouais.
Ça veut dire des millions de Québécois qui se sont cultivés à toute vitesse.
Ouais.
Vos étudiants, mais tout le monde aussi. Tout le monde. Donc ça fait un bond de culture politique,
absolument,
de pratique politique,
ouais,
de perception de l'histoire, de la société, etc.
Ouais.
Et ça va se traduire d'une façon ou d'une autre. On ne sait pas très bien, mais ça va peu à peu imbiber la société.
Je pense que c'est indéniable.
C'est un renouvellement de quelque chose qui était sclérosé, qui... C'est ça, c'est une sclérose. Et il faut une jeunesse, un printemps.
Oui, moi je pense. Et ce qui est particulier de ce printemps-là, c'est que ces jeunes-là, on les a tapés dessus, on les a gazés, on les a tirés dessus avec des balles de plastique. On n'a jamais connu un tel degré de répression au Québec. Hein, c'est nouveau pour nous. Et cette jeunesse-là, elle a résisté. Elle n'a pas plié face à cette répression-là.
Ouais.
Et ça, c'est quelque chose.
Ouais, ouais.
On a réapprivoisé la rue. C'est vraiment, comme vous dites, un éveil. Mais en même temps, un éveil face à un raidissement. Et ça, c'est nouveau. Je suis en train de rédiger en ce moment un texte sur qu'est-ce que les classes sociales, la théorie des classes sociales peut nous apprendre sur ce qui se passe actuellement.
Oui.
Je parle de la classe moyenne, mais je parle aussi de l'élite. Alors, on peut pas l'appeler bourgeoisie. Je pense que ça serait ridicule de reprendre les mots du 19e siècle pour parler d'elle. Comment la connoter, alors là, je ne sais pas. Mais je sais qu'on a une élite politique, mais rattachée à une élite économique. Et on les voit faire corps, comme jamais auparavant.
Oligarchie?
Oui, oligarchie peut-être. Aux États-Unis, il y a un commentateur politique qui avait parlé de « overclass ». Une classe
la par-dessus. Surclasse.
Oui, une classe
comment par-dessus. Comment on se fait surclasser dans l'avion.
Oui, exactement. Une classe par-dessus toutes les autres. Toutes les autres classes sont prises dans la solidarité nationale, sont prises dans l'impôt, sont prises dans le boulot, dans le métro, dans les bouchons. Et il y a ceux qui sont en hélicoptère, dont toute la fortune est dans les paradis fiscaux, qui vivent dans des communautés emmurées. Hein, on le sait, en Amérique du Nord, c'est même au Canada, on a ces communautés emmurées, avec les écoles privées, qui n'ont pas besoin de l'État, qui sont émancipées. Hein, c'est l'image qu'utilisait Lynn, c'est un dénommé Michael Lynn, et je l'ai pris moi à mon compte dans certains écrits, c'est l'auto-exclusion. Hein, il y a les exclus par le bas, il y a les exclus, et il y a ceux qui ont le privilège de l'exclusion par le haut. On arrête de payer des impôts, on n'a plus besoin des hôpitaux, plus besoin de l'école, plus besoin public, on n'a plus besoin du public.
C'est ce que ceux d'Occupy appelaient les 1%.
Oui, il y a un peu de ça dans ce qui se passe en face de nous. On résiste un peu contre ça, je pense. Je pense qu'il y a un peu de ça dans les gens qui sont en face de nous, qui se disent « oui, mais c'est pas grave, on n'a pas besoin de tout ça, nous autres. On est ailleurs. »
Overclass.
Oui,
overclass.
As we gather together. Bon, on prend le matériel.
Voilà.
C'est pas de la petite casserole, ça.
Non, c'est la meilleure, parce que tu peux avoir du son ici, puis après, t'as le gros coup. Là,
ah, c'est à ça qu'on reconnaît les musiciens, c'est qu'ils essayent de faire des harmonies avec
quand
leur casserole.
Quand même, un peu.
Alors, parle-moi de toi, alors, Ivy.
Oui.
Ivy.
Yo.
Slammer, musicien.
Oui. Oui.
Et là, on est dans quel quartier?
Là, on est dans le quartier Villeray.
Et on voit les voisines qui sortent à la 8h moins le quart. Tout le monde commence à sortir avec ses gamelles sous les mains. Oui. Mais c'est vrai qu'ici, il n'y a pas trop de... Hein, c'est tranquille, quoi.
Oui, voilà. Donc, on va aller dans un coin un peu plus agité. Venez, les enfants. Oui, parce qu'en fait, ce soir, c'est un grand soir. Comme les négociations ont été rompues par le gouvernement, ben, c'est l'occasion, ce soir, d'aller manifester bruyamment notre désapprobation, notre désaccord. Ce qui est drôle, c'est qu'il y a beaucoup de familles de comme moi, tu vois, avec les enfants, on se joint à tout ça. Mais en réalité, c'est pas drôle. Et ce qui est comique, excusez-moi le jeu de mots, mais ce qui est comique, c'est qu'on en fait un truc festif, un truc drôle, mais en fait, c'est pour quand même signifier qu'on n'est vraiment pas d'accord et qu'on se taira pas, qu'on se fera entendre quand même.
Ouais.
Parce qu'en fait, c'est devenu, ça a débordé le cadre étudiant. C'est devenu un ras-le-bol de cette espèce de néolibéralisme qui encroûte le Québec depuis presque 20 ans. En fait, c'est la politique de l'utilisateur-payeur. Vous voulez un service, vous payez, c'est normal. Alors, vous voulez des études, payez-les. On fait jamais le débat pour dire est-ce que comme société, c'est un plus pour nous d'avoir des enfants, des jeunes qui sont éduqués? Est-ce que c'est un plus pour nous? On ne fait jamais cette équation. On ramène tout à l'individu.
Ouais, et j'imagine, Ivy, que toute cette mobilisation de ces plus de 3 mois maintenant, ça a donné une formidable matière pour,
oui,
justement, pour le slam.
Oui, oui, ben, j'ai écrit des textes, évidemment, pour eux. J'ai écrit un texte aussi pour défendre les artistes dans le voir, parce que les artistes, on les traitait de pelleteux de nuages. Je ne sais pas si vous avez cette expression
non.
En France. Bon, vous, j'imagine que vous comprenez. Pelleteux de nuages, donc... Voilà, ça, c'est mon fils qui vient d'échapper sa casserole. Donc, pelleteux de nuages, c'est donc, tu vois, on pelte des nuages. Donc, on fait rien dans la vie. Ah, on fait que rêver, tu vois.
On brasse de l'air.
On brasse de l'air, tout à fait. Mais nous, on pelte les nuages.
Pas mal.
C'est pas mal, hein? Donc, ils nous traitaient de pelleteux de nuages parce qu'on avait soutenu les étudiants. Et ben voilà, je leur ai fait un texte là-dessus. Nous sommes des pelleteux de nuages, nous n'aimons pas ce qui fait ombrage aux fragiles fleurs assoiffées de soleil. Nous dégotons la chair entre les jambes de l'été et rien ne nous fait plus plaisir que de soulever sa jupe. Quel parfum, quel délice! Si vous pouviez les sentir un moment, mesdames, messieurs, les bien-pensants. Au néon blafard de vos bureaux, nous préférons les tons marrons et les verts dans la terre libre. À la peur et ses griffes, aux dents qui claquent et à la peine cotée en bourse, nous ouvrons les bras et nous vous conduisons dans le sauna de l'imaginaire. Suez-nous, coupez dans le gras et retrouvez la ligne sinueuse du désir, oui. Souffrez de nous suivre, car voyez-vous, nous, les pelleteux de nuages, les grands têtes dans la lune, nous fuyons l'intelligence autant que la pensée commune. Nous n'avons ni jugeote ni même d'esprit pour en faire étalage. Vous l'avez dit, nous sommes occupés à pelleter des nuages. Alors vos principes, vos idées et ce qu'en pense le vrai monde. Dans votre gestion du monde, existe-t-il une place que votre vertu n'est pas contaminée? Nous n'avons pas besoin de vos illusions. Notre addiction, c'est l'addiction, nos traditions, la déraison. Arpenteurs de la réalité, nous désapprenons à vivre chaque jour les mensonges de votre éducation. Nous ne voulons pas changer le monde. Nous vous le laissons, nous vous l'avons toujours laissé. Nous voulons en créer un autre, à l'image de notre espoir et de notre foi en nos enfants, mesdames, messieurs les bien-pensus. Nous sommes des pelleteux de nuages. La chose est entendue, c'est toujours mieux que de pelleter de la merde.
Super.
Bien.
Ah voilà, on s'approche du carrefour et on entend petit à petit le bruit qui augmente.
Nous voyons tous les manifestants marcher.
Il y en a beaucoup, hein, t'as vu ça?
Ouais.
Et regarde, sur le toit de la maison, on voit des gens avec un drapeau québécois qui sont en train d'agiter comme ça.
En fait, il y a beaucoup de causes qui se mêlent. Hein? Le souverainisme, la gauche qui est enfoncée depuis longtemps, l'insatisfaction en général, la crise économique. Ah, ça, c'est large.
Et voilà, on s'approche. Et là, c'est comme tous les soirs maintenant.
Mais les manifs, on en est à la 35e manif spontanée. En fait, hier, il y avait deux manifs, avant-hier, trois. Des fois, il y en a quatre. Et ça peut partir, aller dans n'importe quelle direction. Ça peut être retrouvé à 10 km d'ici tout à l'heure.
Fermez la TV, ouvrez les yeux, porte un panneau. Et voilà, on va vraiment, mais là pour le coup, c'est tous les âges. Des familles avec des enfants, comme à Ivy, des personnes âgées, des voitures qui passent en klaxonnant, en devant de pouce, et tout le monde avec son petit carré rouge, ou bien rouge ou noir. Il y a même une sono là en plus. Et il y a un peu toutes les têtes, vraiment. Et tout le monde, tout le monde sourit. Madame,
oui.
Racontez-moi, qu'est-ce que vous êtes venue faire ici?
Moi, j'habite le quartier et je suis une vieille.
Vieille, vous dites?
Oui, mais je suis tout à fait contre la politique de M. Charest, qui ne voit rien, qui ne sent rien, qui ne sait pas ce qui se passe dans son propre territoire. Il se passe des choses extraordinaires. C'est qu'on est en train de faire en sorte que tous les abus de pouvoir vont désormais être remis en question, ce qu'on ne faisait pas avant. Et maintenant, je pense que les gros profits, les gros salaires, l'indécente opulence, c'est terminé. Pour moi, c'est terminé. Je ne lâcherai pas.
Vous ne lâcherez pas?
Non.
Parce que vous n'êtes pas concerné directement par les frais universitaires.
Oui, parce que j'étudie, imaginez-vous, j'ai 70 ans et j'étudie l'espagnol. Je suis inscrite à l'UQAM.
Bravo!
Et je suis en grève.
Mais là, c'est en train de dépasser, ça devait devenir une critique politique, si j'ai bien compris.
C'est tout à fait ça. Ce n'est plus simplement les frais de scolarité maintenant. C'est vraiment... C'était le catalyseur. Mais je pense qu'il faut faire quelque chose. Il faut vraiment que tous ces gouvernements de droite qui nous musellent, il faut leur dire que non, on va parler quand même.
Et pendant qu'on parle, il y a une demoiselle qui passe et qui nous distribue des petits papiers qui dit « Assemblée populaire autonome, samedi,
oui,
à 13h au parc Jarry.
Oui. »
Pour rassembler massivement les habitants et habitantes de notre quartier, un espace de discussion ouvert à tous et toutes, inclusif, non raciste, non sexiste et non partisan. Le service de garde sera disponible sur place. La grève est étudiante, la lutte est populaire.
Absolument, tout à fait d'accord.
Donc c'est un réveil.
Absolument, et c'est tout à fait incroyable, extraordinaire. Je ne pensais pas... J'étais déprimée, vous savez, j'étais déprimée parce que moi, j'étais en France en mai 68, on était en grève.
Vous étiez sur les barricades en mai 68?
Oui, oui, à Aix-en-Provence, et après, on a eu la crise d'octobre. Et j'étais enseignante dans un cégep, et j'ai fait des grèves et tout, féminisme et tout ça. On a gagné plein de choses, et depuis quelques années, je trouvais qu'on reculait. Je me disais, non! Ça ne se peut pas, l'élastique est tendu jusqu'au bout. Il va falloir qu'il y ait quelque chose qui éclate. C'est absolument nécessaire.
Merci beaucoup.
Les camarades, tu passes, invisible dans la foule. Ton visage disparaît dans la marée brumeuse. De ce peuple au regard épaillé sur ce qu'il voit, la tristesse partout, de beaux yeux de hublot. Qui donc démêlera la mort de l'avenir? Tu écoutes les plaintes, les graffitis sur les murs, tu touches les pierres de l'innombrable solitude, tu entends battre dans l'ondulation des épaules ce cœur lourd par la rumeur de la ville en fuite. Qui donc démêlera la mort de l'avenir? Allège un corbeau au rendez-vous de ton geste, tant tandis qu'un vent souterrain tonnait et cognait pour des années à venir dans les entonnoirs de l'espérance. Qui donc démêlera la mort de l'avenir? Qui donc démêlera la mort de l'avenir? Qui donc démêlera la mort de l'avenir?
...2012-1968... et ça fait 44 ans. Et il y a 44 ans, j'étais à l'atelier des Beaux-Arts à Paris.
C'est vrai?
Oui. Oh. Et c'est exactement comme ça.
C'est vrai.
Vous n'avez pas beaucoup avancé, les gars. Hein. Alors, on est où exactement ici? On est
au centre de design de l'UQAM.
Et là, c'est votre atelier de graphisme ici?
On a investi les lieux parce que normalement, c'est des salles de cours, pas des ateliers en tant que tels. Mais on a occupé les lieux, on s'est fait des tables de sérigraphie, on a affiché nos affiches, on a vraiment investi les lieux là, durant cette grève-là pour travailler quand on veut. Tous nos cours sont suspendus parce qu'on est en mandat de grève, on a voté la grève dans notre association. Sauf que on a décidé de fonder cette école-là durant la grève pour pas rester chez soi, pour vraiment faire quelque chose là, de positif pour le mouvement étudiant.
Alors, vous avez repris assez souvent et les techniques et le graphisme d'il y a 44 ans, de vos ancêtres, de vos 44 ans, ça fait les arrière-grands-parents. Et alors, vous retrouvez la sérigraphie, la technique de la sérigraphie d'une part, et d'autre part, le graphisme de 68 en France. On a des textes, ne pas respecter la grève, c'est laisser son pays à la dérive. Là, il y a mouvement historique, victoire historique, très grande affiche, grand caractère rouge sur fond blanc. La judiciarisation mine le conflit. Ça, je ne suis pas sûr qu'on ait cette idée à l'époque, ça c'est très malin. Et là, c'est très beau, la grève politise notre génération. D'autres qui sont lisibles immédiatement. Et celle-là, on a eu du mal avec Give en regardant celle-là, c'est « Restons phares ». Alors, il y a un phare, et on se dit « Qu'est-ce que c'est que ces gars-là qui se prennent pour les phares de la pensée, tu sais ?» Comme Ceausescu, c'était le phare de la pensée. On dit « Restons phares ». Ah ! Restons phares ! C'est ça ?
Voilà.
C'est un jeu de mots. Voilà. C'est « Restons phares ». Phare et fort. Le fort... Et on éclaire le mot. Alors ça, c'est une partie du graphisme. Ça, c'est très beau, le combat est à venir. C'est beau, celle-là. Le combat est à venir. Le combat, c'est l'avenir. Le combat est à venir avec une vague.
Une des choses qui est importante à propos de ces affiches-là, c'est que c'était vraiment la même approche qu'en 68. C'était une approche très, très, très actuelle. C'est-à-dire qu'on regarde l'actualité, on filtre les informations qui passent, puis quand il y a quelque chose qu'on n'aime pas, qu'on voit qui est désolant, ben on va l'attaquer directement, visuellement. Symboliquement. Donc, toutes ces affiches-là, bon, à part le Restons phares, qui, lui, est, bon, il se trouve à peu près entre deux mondes, mais la judiciarisation et ne pas respecter la grève, c'était à un moment où les étudiants demandaient des injonctions et le monde judiciaire rentrait directement dans le conflit.
Ça, c'est pour expliquer pour les auditeurs français, c'est qu'il y avait, au début de la mobilisation, quand les cours avaient encore lieu, une partie des étudiants, ceux qu'on appelait les carrés verts, qui attaquaient en justice, qui prenaient des avocats, pour faire respecter leur droit à aller en cours contre ceux qui voulaient faire des piquetages, c'est-à-dire empêcher les cours de se poursuivre.
Oui, au nom du droit d'aller étudier, c'était vraiment une minorité qui battait la décision qui avait été établie en majorité.
Quelle peut être la suite de l'histoire? Au point où on en est, là, tout le monde dit c'est dans l'impasse. Mais évidemment que l'histoire se dégage toujours des impasses, ressort des impasses et repart. Ça va aller dans quel sens? Parce que là, il y a une chose qui vous hante tous les trois. C'est vous vous demandez si vous allez pouvoir assister à la finale de la Formule 1. Comment ça s'appelle? Le Grand Prix, au Grand Prix de Formule 1.
J'ai acheté mes billets, je me demande si je vais pouvoir y aller.
Bah oui, il y a des milliers et des milliers de vos compatriotes qui rêvent de ça, qui ont fait leurs économies, qui ont fait des économies, qui sont là avec leurs billets. Derrière ça, il y a toute une industrie, il y a toute une activité économique. Et vous, vous êtes tous les trois, là, les petits malins, en train de mettre des bâtons dans les roues
de cette compétition. Il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Il y a la saison touristique qui arrive, les festivals. Et là, vous êtes responsable du blocage de l'économie de votre pays. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de votre responsabilité, tous les trois, dans cet atelier de graphisme de l'Université de Montréal.
Bien sûr que les gens, quand ils voient qu'il y a un plan pour aller bloquer le Grand Prix, ils voient ça puis ils disent « Oui, mais ça rapporte un certain montant. » C'est bon pour Montréal. C'est très bon, en fait, parce que c'est de l'argent qui vient souvent des touristes qui viennent de l'extérieur et qui est redistribué. C'est pas nécessairement le gouvernement qui le distribue après. C'est redistribué dans les compagnies qui sont touristiquement impliquées, par exemple, à Montréal. Mais il y a quelque chose qui a été dit et je pense que ça remet les pendules à l'heure, c'est de dire « Tu sais qu'une société est malade quand l'éducation est devenue une marchandise et le Grand Prix est vu comme un projet de société. » Donc, c'est de le recomparer et de montrer que oui, c'est peut-être important, mais est-ce que c'est vraiment plus important que l'éducation à long terme? Ce n'est pas une retombée économique automatique, bien sûr. L'éducation, ça vient après longtemps. C'est un plan qu'il faut se faire.
Dans une ville d'Amérique, un circuit, une course sont devenus mythiques. Pour les pèlerins du sport automobile, Montréal, le lieu sacré de la F1. Vous y avez rendez-vous avec les dieux de la course. Au circuit Gilles Villeneuve, les 10, 11 et 12 juin. Au Grand Prix du Canada. Commandez vos places maintenant.
Mais oui, c'est ça qui l'enjeu ces jours-ci. C'est le Grand Prix du Canada. Or, parmi ces étudiants, il y en a un certain nombre qui entendent perturber la préparation. Des terroristes qui montent un coup, qui préparent le grand complot. Et nous les avons rencontrés, Guy Vanquetil et moi-même secrètement, dans une rue sale et transversale de Montréal, un représentant de la claque, la convergence des luttes anticapitalistes. Bon, alors, là, vous préparez le grand complot.
Ben, le complot se poursuit depuis quelques semaines, quelques mois et quelques années. Si vous parlez de la claque, la convergence des luttes anticapitalistes, à la faveur de la grève et de la mobilisation actuelle, on prépare différentes choses. En général, on est assez actifs. Et là, on a une manifestation, oui, cette semaine, par rapport au Grand Prix du Canada.
Qu'est-ce que vous préparez?
Pour ce jeudi 7 juin, on prépare une perturbation de la soirée cocktail d'ouverture du Grand Prix du Canada, qui est une soirée pour l'élite jet-set qui est à Montréal. Donc, c'est rencontre avec les pilotes, grand orchestre symphonique, grande bouffe, des billets jusqu'à 25 000 $ le couvert.
Donc, le couvert, pour s'asseoir à table à côté des pilotes, c'est
exactement,
ça?
Exactement. C'est jusqu'à 25 000 $ les plus chers pour s'asseoir à côté d'un pilote F1.
C'est-à-dire 20 000 €.
20 000 euros, exactement. C'est ça, 20 000 euros pour quelques heures. Et donc, c'est
vous
une soirée.
Regardez manger un pilote en face de soi, c'est 20 000 euros.
Ben, pour lui demander comment il fait pour conduire, renégocier les courbes à 200 km/h, par exemple, ou comment il négocie les courbes des femmes qu'il rencontre, ce genre de truc. Donc, c'est une soirée qu'on trouve assez indécente dans un contexte de coupure économique, de coupure dans les programmes sociaux. Donc, on va aller manifester contre cette élite qui vient s'afficher devant nous de façon aussi directe. Donc, il risque d'avoir d'autres manifestations. Et déjà, dans le cadre de la grève étudiante et de la mobilisation contre la loi 78, il y a beaucoup de gens qui manifestent tous les jours, le soir, le jour, dans différents quartiers de Montréal et qui risquent d'être encore plus nombreux pendant les journées du Grand Prix, qui est une provocation là, pour les gens qui veulent une société un petit peu plus sociale et démocratique. Ouais.
Oui, parce que si on parle en termes de violence symbolique, on se demande si c'est vous qui êtes violent ou si c'est ce Grand Prix.
Ben, tout à fait. Ça, la question de la violence, nous, on s'en fait souvent remettre sur le nez parce que on n'a pas de service d'ordre pour contrôler les manifestations. On ne donne pas de mot d'ordre aux gens de rester pacifiques absolument à tout prix. On considère que les gens, quand ils se font attaquer de façon symbolique ou réelle, par le grand capital, par les forces de l'ordre, ils ont le droit de réagir, ils ont le droit de s'organiser, de faire de l'action directe, de faire des obéissances civiles. Donc, pour nous, la violence du Grand Prix, mais la violence de la loi 78, la violence aussi du mépris fait aux étudiants par les fausses négociations, la violence dans les coupures à l'aide sociale ou en santé, la privatisation, la tarification, pour nous, c'est de la violence étatique. Puis, disons que 65 mecs et femmes qui votent une loi spéciale et que le lendemain, il y a 300 000 personnes dans la rue pour la contester, on se demande de quel côté est la démocratie. Donc, on se retrouve où il n'y a pas de réponse de la part du système, mais les gens ne sont pas prêts à le faire sauter non plus en majorité. Donc, on est dans un entre-deux. Nous, on le ferait sauter, on serait bien contents, mais les gens ne sont pas rendus nécessairement là. Donc, ils ne croient plus au système politique officiel, mais ils ne croient pas non plus qu'il faut tout changer d'un coup. Donc, on est dans une évolution. Le réveil, je pense, il est là-dessus. C'est sur les questions fondamentales.
On ne sait pas où on va. Mais on sait que ce ne sera plus comme avant.
C'est ça. On sait que ça va être différent. Puis on sait que ce qui a été acquis pendant cette grève-là, cette mobilisation, n'est pas perdu. Il y a beaucoup de gens qui vont voir les choses différemment. Quand ils vont avoir à agir politiquement, ils vont penser différemment. Quand ils voient les médias, ils ont une espèce de recul, ils lisent entre les lignes. Donc, il y a des choses qui ont été acquises, qui, ça, pour un changement à moyen terme, est une bonne chose.
Merci à toutes et à tous. C'était le printemps érable et les pelleteux de nuages, quatrième volet de notre reportage avec Guy Vanquetil à Montréal, montage Antoine Chao et Grégory Salomonovitch. Merci à Olivier, Pierre-Luc et Chêne de la Montagne Rouge. Merci à Eric du CLAC, à Ménic le Barbier, à Ivy le Slammer. Merci également à Eric Pinault, Michel Seymour, Eric Martin, Francis Dupuis-Derry, Marco Sancelovici, Louis-Frédéric Godet, les éditions Luxe, Samir Kadir, Françoise David, David Dubois de Québec solidaire, Alain Gravel de la Radio-Canada, Benoît Guillemin, Claude Rioux, David Dufresne et Kamel, l'ami Kamel et ses copains algériens. Merci évidemment aussi à Normand Bayard, Jean Voyage Chantal. Merci à tous et vous savez ce qu'il vous reste à faire, c'est d'aller faire tout de suite un tour à Montréal et au Québec. Ça sera sans doute très vivant encore au cours de l'été. Autre chose, demain soir, ça on revient ici à Paris, mercredi 6 juin, vous êtes tous invités à la Bourse du Travail à Paris pour fêter avec nous l'abandon des poursuites de Jean-Charles Naouri, PDG de Casino, contre qui donc ? Contre là-bas, si j'y suis, et oui, et contre le journal Fakir. On a gagné, on ne perd pas toujours, et c'est l'occasion de fêter cette victoire. Et bien d'autres, donc demain soir, à partir de 19h, à la Bourse du Travail, 3 rue du Château d'Eau, Paris 10e, métro République, entrée libre. Avec tout un tas d'invités, vous retrouverez toutes les informations sur le site de France Inter à la rubrique émission Là-bas si j'y suis, où vous pouvez réécouter cette émission. On s'en calisse, la loi spéciale. Vous pouvez également la réécouter sur là-bas.org, là-bas.org, ainsi que sur la page Facebook de l'émission. Vous avez compris ce que ça veut dire, on s'en calisse. Ça veut dire on s'en tamponne, ça veut dire on s'en fout. Et il y a eu beaucoup de blasphèmes comme ça, hein, vous savez bien. Au Québec, on adore le blasphème. À la technique aujourd'hui, Defar Guéride et Jean-Philippe Jeanne, Bertrand Chometon et Franck Adhérer ont réalisé cette émission assistée de Marina Touillez et Grégory Salomonovitch. Attends vos messages sur le répondeur de la base. J'y suis au 01 56 40 37 37. 01 56 40 37 37.
Un jogging toujours dans le même parc, c'est lassant. Alors depuis que j'ai gagné à Euromillion, je varie. Central Park, la Grande Muraille de Chine, les Maldives. Mais le mieux, c'est le Mexique. Je cours sur les marches du Temple Maya comme ça en même temps. Je fais du step.
Euromillion, et si votre vie devenait infiniment plus riche?
Tirage Euromillion le vendredi et le mardi. Ce mardi, jackpot de près de 132 millions d'euros. À partager au rang 1 et plafonné à 190 millions d'euros, voire règlement.
FDJ. Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
Oh non, j'ai cassé la clé dans la serrure.
Eh ben bravo.
Mais je fais quoi? Mais j'appelle l'assurance.
L'assurance. Mais il est comme nous, l'assureur. Le dimanche soir à 22h, il rentre de week-end et son portable est coupé et il aura ton message demain matin à 9h.
À la GMF, les idées reçues, nous, on les plaque. Avec la nouvelle assurance habitation GMF, pour votre serrure, vous bénéficiez d'un service d'urgence 24h sur 24, 7 jours sur 7, et nous payons la première heure de réparation. C'est ça, une bonne assurance.
GMF, assurément humain.
Voir conditions et détails des prestations en agence ou sur gmf.fr.
Raoul Nettoyeur, j'écoute.
Il vient de rendre l'âme. Je ne sais pas quoi en faire.
Vous pouvez le traîner.
Non, il pèse 100 kilos.
Vous avez une scie.
Je ne vais pas le couper en morceaux quand même. Dépêchez-vous, il commence à fuir.
Mais vous parlez de quoi?
De mon frigo.
De votre frigo?
Vite, il se met à dégivrer. Et pour mon frigo?
Avec Écosystème, il y a plus simple pour se débarrasser d'un appareil électrique. Tous les points de collecte et les solutions de recyclage sur écosystème.fr.
Écosystème.
Le plus simple, c'est de recycler.
France Inter présente David Bowie, Ziggy Stardust, Découvrez une édition remasterisée, version CD, vinyle et DVD, à l'occasion du 40e anniversaire de The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars. David Bowie, Ziggy Stardust, dans le programme musical de France Inter et sur franceinter.fr. France Inter, partenaire du Festival de Saint-Denis du 31 mai au 30 juin. Colin Davis, Daniel Harding, John Elliott Gardiner, trois chefs anglais. Mozart, Schubert, Berlioz, trois chefs-d'œuvre dans la basilique. Retrouvez le Festival de Saint-Denis dans les programmes de France Inter et sur franceinter.fr.
Et vous n'oubliez pas demain soir, donc, la fête de leur défaite à la Bourse du Travail, à partir de 19h avec la basse J'y suis. Et Fakir, il est 16h sur France Inter. On se retrouve demain à 15h pour la basse J'y suis. Je vous laisse pour les infos avec Laetitia Gaillet. Salut!
Le discours de la méthode à Matignon cet après-midi. Depuis une heure maintenant, Jean-Marc Ayrault et plusieurs de ses ministres reçoivent les partenaires sociaux. Une réunion destinée à préparer la conférence sociale de début juillet. L'emploi avec le contrat de génération, le pouvoir d'achat avec le coup de pouce au SMIC font partie des premiers thèmes qui seront abordés. La FNSEA, le premier syndicat agricole, regrette aujourd'hui de ne pas avoir été convié. Voilà qui devrait rendre la procédure plus rapide et plus facile. Luca Rocco Magnotta ne s'opposera pas à son extradition vers le Canada. Il l'a dit au juge berlinois à qui il a été présenté aujourd'hui. Le Canadien de 29 ans est soupçonné d'avoir tué et dépecé un étudiant chinois à Montréal. Il a été placé en détention provisoire. Le convoyeur de fond blessé hier matin dans l'attaque de son fourgon blindé à Aubervilliers en Seine-Saint-Denis ne portait pas de gilet pare-balles. Problème aux côtes qui l'empêchait de le mettre selon une source judiciaire. Cela étant dit, le port du gilet n'aurait rien changé. Les tirs de Kalachnikov l'auraient blessé dans tous les cas. Et il est toujours dans un état critique aujourd'hui. Quant au malfaiteur, deux suspects ont été interpellés et placés en garde à vue. La famille de Catherine Ségala a décidé aujourd'hui de faire appel du jugement de Laurent Ségala. Le généticien français a été relaxé vendredi par un tribunal suisse de l'accusation de meurtre de sa belle-mère en Suisse au bénéfice du doute. Il a toujours clamé son innocence. Il dit avoir trouvé sa belle-mère inanimée à son domicile et avoir tenté en vain de la ranimer. La cour d'appel de Nancy a condamné aujourd'hui la compagnie ferroviaire allemande, la Deutsche Bahn, à 160 000 euros d'amende pour homicide involontaire. Une condamnation qui intervient 9 ans après l'incendie du train Paris-Munich qui avait fait 12 morts en 2002. La SNCF, également poursuivie, a elle été relaxée. Expéditive, Samantha Stosur, l'Australienne est la première qualifiée pour les demi-finales dames de Roland-Garros, victoire en 2-7. Elle a été suivie tout en sourire par l'Italienne Errani qui s'est qualifiée elle aussi en 2-7 en battant l'Allemagne Kerber. Voilà donc pour les dames. Olivier Pujade, Tsonga et Djokovic, eux sont au tout début de leur match, c'est ça.
3 minutes d'échange très exactement entre Novak Djokovic, le numéro 1 mondial serbe, et Joe Wilfried Tsonga, numéro 5 au classement ATP. Et Djokovic a très bien démarré cette rencontre puisqu'il a remporté sa mise en jeu sur un jeu blanc. Réaction de Joe Wilfried Tsonga actuellement sur son service. Il mène 40-0, pas de problème entre les deux hommes qui débarrent vraiment très très bien cette rencontre. Un petit mot sur les deux quarts de finale dames. Hein, Sarah Errani, belle trajectoire pour elle. Elle n'avait jamais passé le deuxième tour jusqu'ici. Elle se retrouve en demi-finale. Une victoire 6-3, 7-6 face à l'Allemande Kerber, face à Samantha Stosur. Ce sera la première demi-finale dames. Samantha Stosur qui a battu 6-4, 6-1 Dominika Sibulkova, Roger Federer et Juan Martín del Potro. L'Argentin sont à l'échauffement actuellement sur le cours Suzanne Lenglen.
Vous parlez bien l'argentin, c'est ça?
Espagnol. Oui.
D'accord, ok, enfin l'espagnol-argentin. Vous écoutez France Inter, 16h03.
Dimanche, élections législatives, premier tour.
La rédaction de France Inter se mobilise et vous propose une soirée spéciale.
Une soirée exceptionnelle sur France Inter.
Hélène Jouan.
Retrouvez-nous pour le premier tour des élections législatives.
Patrick Boyer. Dès 19h30, quelle participation, quelle mobilisation dans les 577 circonscriptions.
20h, le nouveau rapport de force politique, les premiers résultats.
Directs et reportages dans toutes les villes, dans toutes les régions de France. Analyses et commentaires en compagnie de Patrick Jarraud pour le journal Le Monde.
Et des débats avec nos invités, quelles consignes de vote pour le second tour?
Élections législatives, premier tour. Une soirée spéciale en partenariat avec France 2, Le Monde et Le Point, avec Ipsos Logica Business Consulting, à suivre sur France Inter dimanche à partir de 19h.
Et suivez-nous toute la journée sur franceinter.fr.
France Inter, la différence.
Et c'est à vous Frédéric Ledéon, bonjour.
Bonjour Laetitia Gaillet. Carrefour de l'Odéon. Bonjour à tous, c'est la journée mondiale de l'environnement aujourd'hui. Oui, je l'ai appris moi en écoutant Les Affranchis ce matin. C'est Daniel Morin qui suit très très régulièrement ces événements qui nous l'a rappelé. Alors la musique évidemment s'appuie beaucoup sur la nature, on le sait. J'ai entendu aussi Jean-Claude Amezen dire ce week-end que probablement que la musique avait précédé le langage, parce qu'il étudiait avec sa science habituelle les sons émis par les baleines par exemple, et ces signaux qui sont des signaux amoureux ou des signaux de reconnaissance ou de signal de danger. Enfin bon, tout ça, c'est un langage, c'est vrai, qui vient de très 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 loin et la musique s'en inspire assez largement. Elle s'appuie même sur la description, par exemple, d'une rivière comme la Moldau ou Vltava, comme disent les Tchèques qui préfèrent ça parce que Moldau c'est allemand. Smetana a décrit dans son Amour du pays, dans son cycle Ma patrie, il a décrit admirablement ce cours d'eau avec les péripéties, avec les endroits qu'il traverse. Il y a des moments joyeux comme un mariage campagnard, il y a l'évocation de personnages qui n'existent peut-être pas, des elfes, enfin des personnages un peu mythiques. Et puis il y a les rapides, cascades, le grand tumulte et enfin l'arrivée dans la plaine en toute majesté. Voici une large part de la Moldau ou de Vltava de Smetana.